Salut, mon nom est Sylvain. Je suis un préposé au renseignement, organisé et consciencieux.
Si Sylvain n'a pas mentionné qu'il est paralysé, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travaillez pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
CIBL 101.5, Montréal.
Vivre Montréal, Montréal.
Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 101.5, au cœur de Montréal.
Il est 19h. Bienvenue à Sainte-Catherine, Saint-Loup. Bien assise à côté de moi, ma folle du roi, si folle que Nelly Arcand a dédié le titre de son deuxième roman à Catherine Kennel. Bonsoir, vieille folle.
Bonsoir. C'est un honneur. Oui. Hey, je suis de retour à Montréal, dans la métropole, mon centre du monde, dans mes frontières platouidiennes.
Évidemment.
Mais je suis encore sur centriste. Surprise des prix si bas des maisons Saguenay. Je suis très heureuse tout de même d'être assise à côté de toi.
Tu regardes ça?
Oui, vraiment. Ben, voyons donc. J'ai commencé à regarder les maisons.
Bon, cette semaine, on reçoit... Philippe Lacroix, qui est recherchiste et professionnel, en fait, dans les médias. Et restez jusqu'à la fin parce que ça va être une discussion très nice, dans
oui,
le fond.
Oui, on salue Jacob Desjardins, qui a composé la chanson de l'émission, et notre metteur en ondes, Clémence Langlois. Salut!
Et Maurice aussi, Bolduc. Oui, un duo tout aussi iconique.
Et si l'envie vous prend, comme d'autres, de nous traiter de communistes, n'hésitez pas, nos réseaux sociaux sont partout et vous pouvez toujours nous écrire au sainte-catherine-saint-loup.cibel@commercial.gmail.com.
Moi, personnellement, je le prendrais comme un compliment, le presque.
Oh, on est super heureux.
Monique et Suzy, on disait la même chose aussi.
Bon.
C'est vraiment un compliment. Et là, je me retourne justement, vous les entendez vers nos collaborateurs, là, les moments intelligents de ce show-là. Allô, la bande des trois.
Bonjour.
Oui, ça va bien?
Oui, ben on vient de se faire traiter de gens intelligents. C'est des grosses épaules à porter,
oui,
là, je trouve.
Pour vrai?
Ouais, ouais,
ben
ouais.
Là, own it.
Ben là, qu'est-ce que c'est l'intelligence après tout?
Victor, bon, on va commencer avec toi.
On va mettre la pression.
C'est ça la question aujourd'hui, en fait.
La question du samedi soir, ouais. Ton parc préféré ou fêté? Soir d'été.
Je vais dire le super parc La Lancette, juste à côté de chez nous, dans Hochelaga. Il y a un terrain de baseball puis des terrains de pétanque. Il y a un parc à chiens aussi. C'est super convivial.
Un chien?
Non,
ah ben
non.
C'est ça. Okay.
Mais j'aime me promener au milieu de mes amis canidés.
OK.
Sans commentaire, mais oui, on
Et là, ce soir, tu nous parles de la représentation des Premières Nations dans le cinéma québécois. Première partie.
Première partie, donc, oui, parce que c'est un sujet qui est assez vaste. Puis, ben, dans le fond, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que ceux qui me connaissent le savent peut-être, mais quand j'ai étudié en histoire, eh bien, mon projet final dans le cadre de la fin de mon DEC portait sur la représentation des Autochtones dans le cinéma québécois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas recycler ce travail-là que j'ai fait en faisant une chronique.
C'est drôle parce que ma chronique aussi, aujourd'hui, est un recyclage de mes études.
Mais voyons,
parce qu'il y a comme une personne qui l'a lu. Fait que là, j'étais comme crime. J'ai quand même travaillé fort sur ça.
C'est-à-dire ton prof?
Ouais, mon prof.
Bon, ben, c'est ça. Mm-hmm.
Simon, dans le fond, salut!
Salut!
Ça va?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va bien. Toi, ton parc pour fêter le samedi soir?
Ben moi, je vais aussi prêcher pour ma paroisse, puis je vais dire le parc La Promenade Bellerive dans l'est de la ville, dans Tétroville.
Oui.
c'est un super parc, hein, un parc long sur le bord du fleuve, comme il y en a très peu sur la rive sud de l'île de Montréal, fait que c'est ça.
Un parc où tu as travaillé d'ailleurs.
Un parc où j'ai travaillé, ou que j'ai pu compter l'histoire du parc, l'histoire du quartier, fait que c'est ça. Il y a beaucoup de choses intéressantes à propos de ce parc.
Mm-hmm. Et là, cette semaine, à la demande générale, tu nous fais une partie 2 des femmes en philosophie.
Exactement. Là, la semaine passée, il y a 2 semaines, en fait, j'ai fini un peu en trombe, puis je me suis fait demander de la poursuivre et de la compléter, ce que je vais faire aujourd'hui.
C'était presque de l'harcèlement. Là,
oui, c'est ça. Puis avec quelques petits détails en plus que je vais essayer de compléter.
Ah, parfait. Et je passe à la dernière. Vous l'avez déjà entendu. Camille Sébastien.
Allô.
Allô, toi aussi. Donc, tu nous parles de ton mémoire.
Mais oui, je vous parle du travail du sexe aujourd'hui. Juste une petite explication un peu de c'est quoi la situation au Canada en ce moment, puisque, en fait, les groupes qui militent pour et qui sont constitués de travailleurs du sexe demandent. Donc, okay. C'est très simple. En okay. plus, on veut réutiliser des concepts qu'on a appris dans les dernières semaines. Moi, je fais de l'apprentissage ouais. là, par
c'est
étage.
C'est la leçon didactique de la semaine.
Oui, oui, oui. On est là pour ça.
Puis ton parc, j'allais oublier.
Mais je pense que je vais y aller avec un classique. Mon classique de pandémie, définitivement. Donc, le parc Laurier. C'est pas très original, mais j'adore le plateau Mont-Royal.
C'est correct.
Et il y a quelque chose de magique à ce parc-là, que c'est sûr, peu importe à quelle heure de la journée tu y vas, avec qui tu y vas repartir avec des personnes différentes avec qui t'es arrivé.
Oh oui.
Et ça pour moi, ça pour moi déjà, c'est une grande réussite.
Et il y a des toilettes.
Oui, aussi. Oui. À ne pas négliger.
Elles sont toujours pleines. Il y a tout le temps une file monstre pour les
toilettes. Mais c'est là qu'on rencontre les meilleurs amis.
C'est vrai.
Et toi, Lou?
Moi, mon parc, instinctivement, comme ça, ce serait le parc Jean-Drapeau. Je vais jamais là. Mais je me dis, pour aller fêter, pourquoi pas aller là?
Dans le sens que tu vas aller à pique-nique électronique cet été, qu'est-ce
absolument
que tu nous annonces?
Moi, je vais pas dans les festivals sur cette île-là. Moi, je vais juste là pour observer le centre-ville, le panorama.
OK.
Je sais. C'est mais pas mes parcs habituels, mais je trouve que celui-là, particulièrement pour fêter, mais aussi pour se marier, là, on va se le dire.
OK, ah oui. on parle d'un mariage déjà.
On parle déjà d'un mariage. Okay. Mais il n'y a rien de surprenant à propos de ça, wow. Tu me connais. Et toi, Catherine? Wow.
Mais moi, j'hésite. Là. Mais je pense que je vais y aller avec le parc Bellerive aussi. J'ai trop des beaux souvenirs. Oh. Le bord de l'eau, quand tu fais une petite clope à 16 ans, c'est bien le fun.
Oh mon Dieu, c'est...
C'est très magique.
J'ai
tourné mon
secondaire.
Premier court-métrage là-bas, donc ouais. C'est trop... J'ai des beaux souvenirs.
T'as des beaux souvenirs, ça, parce ouais. que c'était notre premier court-métrage. Elle l'a réalisé, je l'ai produit. C'est un très beau moment. Oui.
Bon, mais ça faisait longtemps que j'avais pris le contrôle de l'animation. Les hommes du show l'ont fait pendant un petit bout, mais maintenant, c'est mon tour. C'est le temps de la saison où on ne sait plus comment les présenter, nos bourgeoises qui suivent la tendance à côté de la tendance elle-même.
Oui, la tendance, c'est nous autres. Oui. Là, parce qu'après s'être fait reconnaître à Chicoutimi, on vous le dit, Sainte-Catherine-Saint-Loup dépasse les frontières montréalaises. Là. Maintenant, on est rendu des influenceuses. Hein, Vassilan?
Mais oui, pourquoi? Ben parce que c'est rendu qu'on nous envoie des recommandations et des exemplaires de livres. Pour qu'on en parle au show. Là.
Vraiment, mais on n'en parlera pas.
Non.
On avait d'autres priorités, dont le vin. Ben on n'a certainement pas parlé de vin à chaque chronique depuis le début de la saison.
Non, et puisqu'on parle jamais assez de vin dans la vie, ma Monique et moi, on avait le goût de passer la chronique en entier à faire une revue d'actualité. En vin!
Oui, ben vous oui. allez voir, c'est pas compliqué comme un cépage tchèque biodynamique cultivé dans des tonneaux du Moyen-Âge. On parle des pastilles. OK, c'est parti.
Aromatique. Écorcé.
C'est les nouvelles assez difficiles à digérer, ouais. voire constipées. C'est un vin rouge de trop bu en fin de soirée qui passe pas dans l'estomac.
Oui, donc notre gorgée assez charnue cette semaine, donc ces derniers jours, là, c'est le budget d'Éric Girard. Là, je le sais, vous allez dire « Oui, mais Monique et Suzy, tout le monde en a déjà parlé. » Mais nous, on manque pas une occasion pour être méprisante, vous le savez.
Oui, allô Éric Girard, on entend dire qu'un exemplaire imprimé faisait 3000 pages et donc qu'à sa présentation, on a imprimé 3 millions de pages en une seule journée. Là.
On ne savait pas que ça prenait 3 millions de pages pour mépriser le secteur de l'éducation, là, franchement, ou encore pour pas faire grand-chose dans le transport en commun.
La spécialiste des transports, Catherine Morancy, est même venue sur le show là, dire que vous n'êtes pas capable. Allez-vous être capable, coudon?
Oui, bon, on a fini avec cette catégorie parce que mais nous autres, les affaires trop corsées, là, on n'aime pas ça, on n'aime même pas le vin rouge. Là, fait qu'on boit même pas ça. Là, fait que next!
Fruité et léger.
Catégorie ouais. toute spéciale pour vous parler des sujets plus légers, le fun, comme un petit rosé italien. C'est aussi là qu'on parle de l'actualité du vidéo.
Oui! Ben, on se lancera pas des fleurs parce qu'on est quand même pas le 7 jours, mais nous autres, l'UDE, on connaît ça vraiment bien, à commencer par Jean Leloup, qui est notre voisin d'ailleurs.
Ça arrive qu'il vienne nous chanter à son Paradis City dans notre cour, là, justement avec un petit fruit, un petit vin fruité et léger dans nos mains.
Oui, puis avec son chapeau là, tellement grand qu'on penserait que ce serait Pierre Lapointe. Mais en tout cas, donc la nouvelle fruitée cette semaine, c'est vraiment le festival Cérimania en France. Là, ça se peut plus, tout le monde du milieu était rendu là.
Et là, on se demande, c'est quoi l'affaire, l'UDE? Là? Hein, arrêtez l'accent français quand vous passez plus que 4 jours ouais. sur le territoire de Macron. Là. Ouais. Allez-vous dire Montréal ou Montréal?
Ou ben donc, allez-vous dire relaxé ou relax, là, voyons?
Champ de Mars ou Champ de Mars?
Ou encore, allez-vous dire oui, j'étais en France ou j'étais en France? Un
puis
ou
là,
un?
Là, allez-vous dire du coup ou fait que. Ben, c'est ça. Moi, c'était mon temps de la semaine, ouais. là, il fallait que ça sorte.
Oui, Magali, ton accent puis ta face, vous dites pas la même affaire. Parlez-vous, là. Bon, on enchaîne. Prochaine catégorie.
Wow. Fruité et vif.
Thank you.
s'en va dans la pastille fruitée et vif. Dans le fond, ce sont des actualités qui, à première vue, ça semble lourd, mais qui finissent sur une belle note fruitée.
Oui, comme le pont de Baltimore qui s'est effondré à cause d'un cargo en détresse cette fin de semaine. Camille, t'as pas vu ça passer?
Non, je me demande comment ça va devenir fruité.
C'est ça. Le côté pas trop nice, c'est 6 morts dans cet accident-là, malheureusement, oui.
Et là, on s'est dit, ben, le côté fruité de cet événement-là, c'est que la carte qui nous rassure que ce genre d'accident n'arrivera pas au Québec. Ouf, I thank God, un petit peu de légèreté dans cette nouvelle-là.
Me voilà rassurée.
Non, mais il y a d'autres actualités. Une autre actualité qui réveille nos papilles gustatives, là, assez fruitées, ben, c'est la réforme du droit familial de Simon Jolin-Barrette. Là. Pensez pas qu'on est devenu avocate, là. Non, je ne suis pas Ariane dans Rupture, mais on va vous parler de droit familial.
Après Tony Accurso, les années 2010 font leur grand retour dans l'actualité avec le procès Éric contre Lola. Éric!
Lola! Comment ça va? Ben oui, parce que ben, c'est tous eux qui ont déclenché cette refonte qui va enfin réglementer les couples en union libre. Bon, on vous le cachera pas, là, moi puis ma Monique, qu'on a failli se marier pour les prêts et bourses, là, comme le lover boy de Sophie Lorrain dans Au secours de Béatrice. Mais il fallait qu'on en parle.
Oui, on a failli à l'époque se marier là, pour ramasser de l'argent durant nos études. Mais on s'est rendu compte que le mariage gay n'était pas légal. En 2005, on n'était plus sur les bancs d'école.
C'est vrai.
En 2005, on n'était plus sur les bancs d'école depuis longtemps. Mais oui, la CAQ, dans le fond, veut créer une union parentale pour les couples qui ont des enfants et qui sont pas mariés. Et là, je disais là-dessus, je trouvais ça super. Puis là, j'ai vu qu'aucun autre État affiche à ce jour une proportion aussi élevée d'union libre dans le monde. Et ça, cette réforme-là, c'était un bel avortement avec le pape.
Oui, là, vraiment. Oui. Parlant d'avortement, puis de pape, deux mots que tu mets pas dans la même phrase. Là.
Oh non.
Oh, oui, avortement et pape à pas croiser au même parti, à pas inviter au même parti.
Non, c'est pas à regard.
J'en ai vu aucun des deux à regard.
Non, moi non plus.
Quelle surprise. Oui, c'est ça. Donc, on l'a vraiment mis ça dehors, mais dehors, comme Guillaume le métier vierge avec tous ses contrats à TVA. OK, prochaine et dernière catégorie. Cette catégorie, c'est les rangées qu'on fait pas. Pire que ça, c'est les bouteilles qu'on regarde même pas. Là. Franchement, limite, on se ferme même les yeux. Oui, ma Monique ne veut pas boire ces bouteilles-là. Vas-y.
C'est ça. À commencer par la plupart des vins américains, même le sommelier du Toki me fera pas boire un chardonnay de la Californie.
Mon Dieu, non. Ensuite, les vins qu'on regarde même pas, qu'on boit pas, ce sont les vins israéliens, en particulier ceux des produits des territoires occupés.
Oui, allez googler ça. Là. Si vous avez pas vu ça passer, Israël commercialise du vin vendu à la SEQ qui a été produit sur des terres volées, mais vraiment volées, là.
Mais oui, vraiment, là. Ça fait que nous autres, le goût d'occupation, on n'aime pas ben ça. On préfère la pastille décolonisation, c'est le feu.
C'est notre préféré. Oui. Nos amis tendance qui gentrifient le café filtre. Nous autres, quand en 2024, ça se faisait plus coloniser. Revenez-en, merci, bonsoir, à la semaine prochaine,
oui,
tout le monde.
Oui, c'est ça, revenez-en. Franchement, on est plein les années 60, là, ça se décolonise maintenant. Oui, fait que là, en évitant la section des vins qu'on boit pas à la SEQ, Monique et moi, on a entendu cette chanson, puis on s'est déhanché, le fait qu'on a soigné Catherine et Lou de la mettre pendant leur show. Fait que Monique et Suzanne vous emmènent dans l'univers musical de Ariane Roy avec Tu as le droit.
Laisse-moi dans l'eau si je tire la lune. Je n'ai pas ce qu'il faut, toi tu as bonne fortune. Tes yeux immenses que je voudrais boire avant qu'ils me noient, je serai ton exutoire. Toi, tu as le droit, tu me chavires à outrance. Moi, je tends les bras, je me couronne de patience. Prends mes espoirs, fais-en un tombeau. Tu laisses l'été s'achever comme il faut. On aime se croire, je sais que tu tangues. Suis-je dans tes cauchemars ou sur le bout de ta langue? Tu as le droit, tu me chavires en transe. Moi, je tends les bras, je me couronne de patience. Et toi, tu as le droit. Je t'en veux pas, je te cours.
Ariane Roy. Oui. On vient écouter de ça le droit, une de nos chansons préférées d'Ariane. De retour sur les ondes décibels, vous écoutez Sainte-Catherine Saint-Loup, la seule émission où vous avez simplement le droit faire, je sais pas à vous de faire quoi.
C'est l'émission où vous avez le droit. Tout simplement. Donc, de faire quoi? Oui, je ne le sais pas. Là,
À vous de trouver, là, quand même. Mais oui. Donc, je me tourne vers Simon. Salut!
Salut!
Oui. Comment ça va?
Ça va bien, oui.
On a, on a le droit d'écouter ta chronique.
J'espère bien. C'est ça, aujourd'hui, comme on l'avait parlé au début, là, je vais poursuivre, terminer, on l'espère bien, là, mais ma chronique que j'avais entamée il y a deux semaines sur les femmes en philosophie, puis aussi l'accessibilité de la philosophie aussi pour les femmes dans l'histoire. Tu sais, pourquoi on les voit pas en philosophie,
ouais.
Parce que, comme on l'avait dit à la première partie, il y en a dans l'histoire des femmes en philosophie. Je vais essayer de faire un petit recap, là, mais on était rendu à l'époque moderne, hein, parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait passé l'Antiquité, on avait vu qu'il y en avait, on avait passé au Moyen-Âge, on avait vu que ça s'était fait d'une manière un peu différente, passé par la théologie, mais que ça se faisait toujours. Puis à l'époque moderne, ce dont j'avais un peu abordé, c'est l'idée que le traité, c'est-à-dire le traité de philosophie, le traité de science, la manière dont on faisait de la science, n'était pas nécessairement accessible à tous. Et donc, la manière dont on connaît la philosophie qui s'est écrite à l'époque moderne, c'est à travers ces traités-là. Et si les femmes qui écrivaient et qui faisaient de la philosophie à cette époque-là n'ont pas écrit de traité, eh bien, malheureusement, on ne connaît pas leur pensée. Mm-hmm. C'était le cas, entre autres, pour une femme dont j'avais nommé, mais qu'on va pouvoir parler plus en détail, de Élisabeth de Bohème. Élisabeth de Bohème, je l'avais associée à René Descartes parce qu'on connaît sa pensée philosophique en lien avec une correspondance épistolaire, hein, des lettres qu'elle envoyait à Descartes et qu'il se répondait ainsi. Je salue d'ailleurs Marie-Ève Mauger-Lavigne qui m'a enseigné Élisabeth de Bohème et qui me permet d'en parler aujourd'hui. Dans le cas d'Élisabeth de Bohème, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait pendant longtemps, on connaissait cette correspondance-là avec René Descartes, mais on l'analysait uniquement comme une nouvelle façon pour Descartes de défendre sa philosophie, puis de voir Élisabeth de Bohème comme quelqu'un qui n'avait pas nécessairement de pensée philosophique en tant que telle, mais qui savait pointer peut-être des détails qui permettaient à Descartes de plus s'expliquer encore. Ce qui est ironique, évidemment, parce que ce qu'on ne voyait pas, c'était la pensée philosophique propre d'Élisabeth de Bohème.
Elle a été un peu invisibilisée dans tout ça.
Exactement. Elle était comme seulement...
Camille est fière.
Oui, c'est ça, exactement. Elle était un petit peu seulement vue comme une espèce d'appui, une béquille pour Descartes, pour mieux expliquer sa pensée philosophique. Mais ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'elle a une pensée sur plein de détails, particulièrement sur le rapport à la détermination de l'être humain. Donc, le libre arbitre, quelque chose qui était très présent chez Descartes, qu'elle va critiquer. Et aujourd'hui, on reconnaît ces critiques-là de différentes thèses cartésiennes. Donc, c'est un cas similaire va être celui, entre autres, de Émilie Duchâtelet, qui est une érudite, qui va avoir une érudite peut-être même.
Oui, allons-y.
qui va avoir une très grande variété d'activités savantes, hein, particulièrement en physique. C'est d'ailleurs encore la seule traduction connue des principes de Newton à l'époque en français. Donc quand même un gros travail. Elle va se pogner avec l'Académie de mathématiques en France. Elle est vraiment une personnalité forte qui va toucher à toutes sortes de sciences et évidemment elle va toucher à la philosophie. Et ce qui est assez intéressant justement encore, c'est que bien qu'on connaisse assez bien Émilie Duchâtelet, une des raisons aujourd'hui où on se doute de pourquoi on a conservé sa pensée, c'est entre autres par sa relation avec Voltaire. Donc encore une fois, comme avec Descartes, c'est à travers l'amitié puis probablement la relation beaucoup plus proche qu'elle entretenait avec Voltaire qu'on s'en souvient. Puis je pense que Voltaire, au décès d'Émilie Duchâtelet, avait une citation qui témoigne assez bien de la situation des femmes en philosophie, parce que je vous cite à son décès, Voltaire dira « J'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avait de défaut que d'être femme. » Et je pense que quand même, ça en dit long sur la situation des femmes en philosophie pendant l'époque
moderne. Attends, faut qu'on prenne notre souffle un peu. Là, parce que...
Mon Dieu!
Puis je voulais terminer un peu cette partie-là sur la philosophie moderne, hein, pour noter néanmoins, que pour écrire, hein, il faut avoir certes la possibilité sociale, mais aussi matérielle d'écrire et de philosopher. C'est-à-dire, autant il faut avoir une place dans la société qui vous permette d'écrire, mais il faut avoir les conditions économiques.
Ça, c'est la thèse de Virginia Woolf dans Un lieu à soi.
Et donc, ces femmes philosophes dont je vous ai présenté et toutes ces philosophes de cette époque-là, bien évidemment, sont issues pour la plupart des classes aristocrates et bénéficient de cette position-là. Et donc, je voulais terminer cette petite section-là en disant qu'il n'est pas interdit de pleurer la philosophie sans doute géniale qui n'existera jamais, de par le fait que la majorité n'avait même pas accès à cette connaissance-là. Puis c'est le cas pour toutes les personnes laissées pour compte hein, par les structures restreignantes des sociétés passées et présentes. C'était le cas pour les femmes, mais c'est le cas pour plein d'autres gens qui, il n'est pas interdit de supposer, avaient une pensée philosophique géniale. Mais philosophie écrite par les femmes dit aussi philosophie féministe, chose que j'avais évidemment pas abordée jusqu'à présent, parce que évidemment, souvent, ces femmes-là qui ont fait de la philosophie avaient une pensée qui était située hein, par rapport à leurs conditions de femmes. Et donc, je commencerai par citer une phrase là, de Charlotte Sabourin et Marguerite Deslauriers dans leur article « Les nouveaux horizons du féminisme dans la philosophie francophone » qui dit « La philosophie féministe est par essence politique ». Son point de départ est un constat. Les femmes ne sont pas, dans les faits, les égales des hommes et cet état des choses n'est ni nécessaire ni souhaitable. Donc, c'est encore une fois une philosophie qui existe depuis bien plus longtemps que le 20e siècle et c'est par cet angle-là que je veux débuter en vous nommant peut-être des noms peut-être un peu moins connus. Je salue d'ailleurs ma bonne amie Stella qui m'a rappelé l'existence de Gabrielle Suchon, cette philosophe moins connue des débuts balbutiements d'une philosophie féministe. C'est une philosophe autodidacte du 17e siècle et par autodidacte, je veux dire, elle connaît très bien tout ce qui a été fait en philosophie, en théologie. Elle a des très grandes connaissances de la philosophie antique, Platon, Aristote. Elle a une bonne connaissance de la Bible et va les utiliser pour écrire, entre autres, ce qui est son texte le plus connu, le Traité de la morale et de la politique, qui a comme caractéristique importante de faire de la morale pour les femmes. Hein? À l'époque, la morale est souvent faite avec le biais qu'on écrit pour des hommes lettrés. Mais elle va le faire avec une certaine direction en croyant fermement en la liberté intrinsèque des femmes dans leur existence. Puis ça va se représenter, du moins dans ses écrits, par prôner le célibat volontaire, hein? En faisant partie, comme le célibat volontaire étant une partie de cette liberté-là qu'elle croit intrinsèque aux femmes. Et pour défendre cette égalité naturelle-là, elle va citer des passages de la Bible, des passages de Platon. Donc, vraiment, là, quelque chose d'assez intéressant.
Mais et tout ça par elle-même?
Oui, exactement. Wow. Ou du moins de ce qu'on en connaît, parce que malheureusement, Gabrielle de Suchon, on ne connaît que très peu de choses sur elle. L'archive l'a énormément, évidemment, là, mis de côté. Peut-être aussi, je peux vous parler d'Olympe de Gouges, peut-être plus connue, hein, qui va participer à la Révolution française et va répondre à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle a une histoire politique assez intéressante, assez flamboyante aussi, qui va se conclure par son décès à la guillotine, principalement par sa radicalité féministe de la part de d'autres révolutionnaires français de l'époque. Hein. Donc, on voit vraiment... l'importance peut-être de ce personnage-là importante pour la Révolution française. Finalement, je terminerai peut-être dans un autre champ, là, peut-être un peu plus champ gauche, Emma Goldman, hein, pionnière de la pensée anarchiste féministe. Elle va écrire et participer activement au grand mouvement politique de la fin du 19e et début du 20e siècle. Ses réflexions féministes vont aller de la question du mariage, de l'union libre, entre autres, d'une sexualité plus libre, mais jusqu'au droit de vote, qu'elle va être très critique, étant donné qu'elle ne considère pas le vote comme étant une manière importante pour avoir accès au pouvoir politique en tant que véritable anarchiste. Donc, c'est vraiment la naissance d'une philosophie féministe anarchiste avec Emma Goldman. Donc, je ne pouvais pas la laisser de côté. C'est les trois noms que j'ai choisis, mais évidemment, il y en a bien d'autres. Hein. Puis, durant le 20e siècle, la présence des femmes dans la philosophie, mais surtout la reconnaissance de leur écriture, particulièrement dans le monde académique, va augmenter. Entre autres, par le retrait de l'interdiction des femmes d'aller à l'université. Là.
C'est sûr que ça aide toujours.
Ça aide beaucoup. Hein. Fait que c'est autant la philosophie féministe qui va se développer avec des noms qu'on connaît comme Simone de Beauvoir, Hélène Cixous, Monique Wittig, que les femmes en philosophie en général, hein, qui n'écrivent pas nécessairement sur le féminisme. Puis je pense que c'est important de le noter, hein, comme des personnes comme Simone Veil ou Anna Arendt.
Ouais. Ouais.
Mais encore là, tant de choses que j'ai pas dit, hein, tant de noms que je n'ai pas nommés. Et bien que je me sois concentré sur la philosophie occidentale, c'est sans nommer bien sûr des femmes comme et là, je vais essayer de bien le prononcer, Vachaknavi, une philosophe védique du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui écrivait dans le grand royaume indien de l'époque, une philosophie complètement différente, évidemment, de celle qui se faisait en Occident. Donc, évidemment, le canon laisse toujours pour compte des gens. Je me répète, mais c'est évidemment là, une infime partie de la place que les femmes ont occupée en philosophie et occupent de plus en plus dans l'histoire et dans cette tradition philosophique. À la fin de ma chronique, il y a deux semaines, ma grand-mère, que je salue, hein, Mamie Janine, m'a recommandé un livre qui est sorti en octobre 2023 qui s'appelle « Femmes philosophes, 21 destins de combattantes » par Maya Ombazik, professeure de philosophie à Montréal. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas nécessairement vous en parler bien, mais ce que Maya Ombazik propose de faire, c'est entre autres des petites fictions écrites à partir évidemment de la réalité historique de ces femmes-là qui ont écrit dans l'histoire de la philosophie, ce qui me permet de terminer ma chronique sur une réflexion sur l'archive, parce qu'évidemment, autour de toute cette chronique-là, ce dont on parlait, c'est l'oubli de l'archive concernant les femmes. Et je terminerai en disant que finalement, des travaux comme ceux de Maya Ombazik, bien que je ne l'ai pas lu, hein, il va falloir vous faire une tête pour vous-même, permettent de nous remettre en question par rapport justement à l'archive, puis de nous poser la question si parfois la violence de l'archive, c'est-à-dire son impossibilité à se souvenir des gens qui structurellement ont été laissés de côté par les sociétés qui nous ont précédés et qui, les sociétés encore actuelles, permettent peut-être une place à la fiction de s'incruster dans l'archive, puis de proposer, de supposer l'existence réelle de ces personnes-là qui ont existé à travers toutes les traditions, que ce soit philosophique ou autre. Fait que c'était la fin de cette deuxième partie sur l'histoire des femmes.
Tu réfléchis sur des questions très actuelles, même dans le monde académique en ce moment. Il y a beaucoup de philosophes, beaucoup d'écrivains.
Ben oui, évidemment. Je pense que l'archive, c'est une réflexion épistémologique vraiment importante à avoir dans toutes les disciplines.
Merci tellement, Simon. On va mettre les liens, le lien, en fait, de ce livre-là sur nos réseaux sociaux.
Oui, oui, puis s'il y en a qui le lisent, n'hésitez pas à m'écrire.
Rappelle-nous le titre,
Femme philosophe, 21 destins de combattante.
Parfait.
Merci à ta mamie pour la référence.
Oui, évidemment.
Merci à elle. Merci, Simon. On se revoit très bientôt. On se laisse pour une courte pause et Camille nous présente son point de vue féministe de la semaine. Donc, en continuité de ta chronique, Simon.
J'espère.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Le 7 avril à 19h, au Centre Saint-Pierre, situé au 1212 rue Panay, Montréal, les publications du Graal offriront une lecture publique ayant pour thème « La réincarnation, pourquoi vivons-nous plusieurs vies? » Des textes tirés de l'œuvre d'Abdrouchine dans la lumière de la vérité « Message du Graal » seront lus lors de cette rencontre. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, composez le 1-866-428-7001, 1-866-428-7001.
Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, c'est pour annoncer ton émission.
Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
OK, reste en ligne, cours la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de tes chums.
Eh, hey, boy. Spraynet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5
FM.
Monsieur Bulle et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 101.5 Montréal.
CIBL 101.5 Montréal.
De retour sur les ondes de CIBL 101.5 avec son œil qui dévoile le patriarcat qui se cache dans tous les petits coins. Allô Camille Sébastien.
Bonjour. je suis super contente de vous parler aujourd'hui.
Ben oui, travail du sexe.
Exactement.
Ton mémoire.
Ben oui, c'est ça, c'est mon mémoire. Puis là, je trouve que la chronique de Simon était très intéressante cette semaine, comme toujours là. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ça répond un peu au sujet dont moi je vais vous parler, qui traite justement inévitablement d'invisibilisation, parce que oui, un des enjeux de l'encadrement du travail du sexe, c'est qu'on n'écoute pas les travailleuses du sexe parce qu'on pense savoir pour elles.
Ouais.
Comme vous le savez, donc, et les auditeurs aussi, on les salue parce que j'en parle chaque semaine. Vous savez que je termine mon mémoire de maîtrise en sciences politiques et études féministes cette session, dans un mois tout juste. Et aujourd'hui, j'ai pensé que ça pourrait être pertinent, un peu comme Victor, de vous parler d'un mémoire que peut-être deux personnes vont lire en tant qu'à le...
Oh, t'es-tu sûre de ça?
Non, non. Non, je blague.
On est au moins 5 sur la table.
Peut-être que...
On va faire un effort, la gang.
Mais oui, puis donc aujourd'hui, je vais vous parler des politiques publiques qui encadrent le travail du sexe au Canada. Là, ça a l'air d'un gros sujet, mais peut-être pour débroussailler tout ça, tout le monde ensemble, est-ce que vous savez c'est quoi les lois, en gros, qui encadrent le travail du sexe au Canada? Un peu, il y a des choses que vous savez.
Qui veut y aller? Moi, j'en connais un peu.
Je connais pas beaucoup, honnêtement.
Je sais que la pratique de travail de sexe, c'est pas illégal, mais c'est l'achat.
La consommation.
Exact. Mais donc, déjà, vous avez l'idée générale. Donc, en effet, depuis décembre 2014, le code criminel a été modifié par la loi C-36 par le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Là, que vous entendez qui a fait la loi, vous doutez déjà sûrement qu'on va pas parler d'une loi de woke. En fait, la loi, pour la résumer rapidement, a comme objectif de faire disparaître le travail du sexe, de l'abolir. C'est ça l'idée. Et dans le fond, c'est parce qu'on considère les travailleurs du sexe soit comme des victimes, des personnes sans agentivité. On l'a appris la semaine passée. Qu'est-ce que ça veut dire?
Agentivité, c'est avoir l'action sur ses actions,
exact.
Sur son système autour
une
de nous.
Une capacité à prendre des décisions. Donc là, ça serait des personnes victimes qui n'ont pas d'agentivité, qui seraient considérées comme des personnes exploitées ou comme des nuisances, donc des personnes qui vont polluer nos lieux publics, déranger et peut-être même avoir une mauvaise influence sur nos pauvres enfants. Et on voudrait surtout pas ça. Hein? Donc, pour atteindre cet objectif-là, la loi criminalise toutes les personnes, comme vous l'avez dit, vous le savez, qui achètent des actes sexuels et toutes les personnes qui reçoivent de l'argent qui viennent de la vente d'actes sexuels. Donc, si moi, par exemple, je vends des actes sexuels et que j'engage un chauffeur, que je suis dans une agence, que j'ai un partenaire ou une partenaire et que je donne cet argent-là à cette personne va aussi être criminalisée parce qu'elle est considérée comme un proxénète. Dans le fond, l'idée de cette clause-là, pour être tout à fait honnête, ça reste de diminuer l'exploitation. Là. Je dis pas qu'au départ, elle a été faite de manière... j'ai juste evil en tête, mais dans le sens que c'est pas méchamment au départ, mais ça reste que finalement, ça a un impact négatif. Parce que ça fait que les personnes peuvent pas travailler à plusieurs, avoir des alliés avec elles et se retrouvent souvent isolées. Une autre chose que la loi fait, c'est qu'elle empêche la communication près de lieux où il pourrait avoir des enfants, donc école et garderie, et empêche toute forme de publicité. Là, vous vous dites, ben oui, moi, je veux pas qu'une travailleuse du sexe soit devant l'école de ma fille. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'il y a pas de distance qui est nommée et ça considère pas si, tu sais, on est dans un lieu fermé à côté et qu'on communique. Il y a comme plein de flous dans la loi qui permettent aux législateurs, désir de certains. Surtout à la police, mettons, d'arrêter des gens sous prétexte que c'est proche, alors que...
C'est laissé au libre choix
exact.
De l'agent de police.
Des fois, le libre choix de l'agent de police, moi, c'est pas mon libre choix préféré.
donc, on s'en doute.
Exact. Aussi, là, vous remarquerez que j'ai utilisé beaucoup le terme travailleuse du sexe, premièrement parce que c'est ce terme-là qui est préféré par les personnes qui sont dans l'industrie, mais j'utilise aussi le féminin parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une grande majorité de femmes dans l'industrie et que c'est une grande majorité d'hommes, donc de clients. Mais je veux surtout pas invisibiliser les personnes trans, qui sont aussi des personnes qui vont être surreprésentées dans les travailleurs du sexe, les personnes bispirituelles et tout. Donc, je tiens à le nommer, mais on va continuer au féminin pour alléger le texte là, jusqu'à la fin. Donc, Là, ce qui se passe, le problème, en fait, qui fait que les personnes ne sont pas protégées, c'est que d'abord, en criminalisant les clients, ben, ça fait que les personnes qui vendent des actes sexuels doivent aussi se cacher pour vendre leurs actes sexuels, parce que si moi, je fais ça comme gang-pain, que j'ai besoin de gagner mon argent, ben, je ne peux pas arrêter de le faire du jour au lendemain parce qu'une loi est passée. Donc, je vais continuer à le faire, mais avec des personnes qui ne doivent pas être vues, sinon elles vont être arrêtées.
Ou sur les réseaux sociaux?
Ou sur les réseaux sociaux, mais là encore, l'achat va être criminalisé.
Ouais.
Donc, on est toujours dans le même enjeu. Et moi, mon mémoire, je le fais surtout par rapport à la vente d'actes sexuels en présentiel. Je sais pas le nom du mot, là.
En présentiel.
Mais genre, moins par rapport à la pornographie, plus par rapport, c'est ça, à la vente d'actes sexuels en vrai. Et il faut aussi dire que c'est difficile pour les travailleuses du sexe de se plaindre à la police. On penserait que si elles sont pas criminalisées, elles peuvent se plaindre, mais si une travailleuse du sexe va se plaindre à la police, et dévoile en même temps le lieu où elle travaille, elle peut mettre dans l'embarras les personnes avec qui elle travaille dans un même lieu. Si c'est à sa maison, elle pourrait avoir la surveillance policière autour de chez elle. Et là, encore une fois, la police pourrait venir et arrêter des clients qui n'ont pas été des clients problématiques. Et donc là, elle perd sa clientèle complètement. Même si techniquement, la loi décriminalise les travailleuses du sexe, on reste dans une optique où elles sont précarisées. Donc, je le rappelle, les travailleuses doivent donc travailler seules parce que elles peuvent, si elles travaillent avec une autre travailleuse du sexe pour les protéger ou avec un chauffeur ou une chauffeuse, cette personne-là peut être criminalisée. Et donc, ça crée plusieurs problèmes. Est-ce que vous comprenez les dispositions criminelles? C'est clair pour tout le monde?
Moi, pas de question.
Parfait.
Les autres? Ça va?
Ça va.
Ouais. Parfait. Parce que là, des fois, les gens se posent des questions. Alors là, je peux continuer. Vous l'avez constaté, cette loi est très contraignante et elle renie donc l'agentivité des travailleuses du sexe. Cette prémisse d'incapacité à prendre des décisions fait aussi qu'on ne considère pas leurs demandes et leurs besoins comme valides. Ils n'ont pas le pouvoir de s'exprimer pour dire ce qui serait mieux pour leur sécurité. Et c'est un énorme problème quand il est question de création de politiques publiques parce qu'elles vont demander à modifier les politiques publiques, mais on les considère comme inaptes. Donc, on les écoute pas quand on crée les politiques publiques. C'est comme ça qu'on se retrouve.
Mais qu'est-ce que tu veux dire, on les considère inaptes?
Comme on les considère comme n'ayant pas la gentilité et n'ayant pas choisi de se retrouver à faire du travail du sexe. On assume directement que c'est des victimes et des personnes qui sont exploitées. Donc, quand on arrive au moment où on va créer une nouvelle loi, ben, on va pas les inviter à la table de discussion. Si on considère qu'une personne a pas un point de vue valide, on l'invite pas à discuter avec nous. Et là, c'est vraiment intéressant parce que ça me ramène évidemment à des sujets des semaines précédentes. Quand on a parlé justement du comité de sages, on a discuté du fait que plusieurs personnes étaient fâchées que le comité de sages ne soit pas constitué de personnes trans. Donc, on s'en souvient, le comité qui doit discuter de la question trans au Québec est constitué de 3 personnes cisgenres. Et on a critiqué ça justement parce que comment ces personnes-là peuvent prendre des décisions pour les personnes trans, c'est la même chose pour les travailleurs du sexe. Et là, vous vous dites, mais mon Dieu, on est tellement dans une situation triste et dramatique. Est-ce qu'il y a des solutions à notre problème? Eh bien, la solution au problème... Je suis là. Alors, la solution au problème, selon les groupes qui militent... pour les droits des travailleurs du sexe, c'est la décriminalisation. Et là, plusieurs personnes, des fois, mélangent décriminalisation et légalisation. Donc, je vais prendre le temps de le préciser. En fait, la décriminalisation, c'est le fait qu'il n'y ait plus de conséquences criminelles aux actions, mais ça ne sera pas encadré par l'État. Là, vous vous dites peut-être, ben, pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas que l'État nous encadre, on aime l'État? Là, moi, je vous répondrai, ça dépend des gens. Et en fait, surtout les personnes qui sont aussi précarisées que les travailleurs du sexe, qui sont souvent à l'intersection de plusieurs discriminations. Donc, mais souvent...
Ça veut-tu dire que ça reste dans le code criminel?
Ben, en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'il y aurait pu... les personnes qui ont de l'argent du travail du sexe seraient plus criminalisées, les clients seraient plus criminalisés, et le fait de communiquer serait plus criminalisé, le fait de faire de la publicité serait plus criminalisé. Et l'avantage de ça, c'est que ça permet aux travailleurs du sexe, donc, de ne plus être stigmatisés de la même manière par la loi. Ça fait que les clients se cachent plus, et ça fait aussi que si les travailleurs du sexe décident d'aller devant... d'essayer de s'adresser à la police, par exemple, ou devant les juges.
Il ne pourra pas y avoir de représailles.
Ben, exact. Okay. Et là, il n'y aura plus le stress qu'ensuite la police aille à leur lieu de travail et arrête leur clientèle, par exemple. Donc,
est-ce
c'est ça l'idée.
Est-ce que ça fonctionne dans un peu partout?
Et c'est ça qui est super... ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un exemple depuis 2003. Donc, en Nouvelle-Zélande, le travail du sexe est décriminalisé. Et ce qui est merveilleux et qui prouve un peu ma thèse de base, c'est que comment est-ce qu'ils ont créé cette loi-là de décriminalisation? Vous me demanderez comment est-ce qu'ils ont pensé à ça?
Comment?
Eh bien, ils ont discuté avec les travailleurs du sexe, avec
des
groupes.
Mais comme
quoi,
pas compliqué, des fois.
Comme quoi, la Nouvelle-Zélande nous prouve que quand on a des discussions...
Comme quoi, on s'appelle et on déjeune.
Ben, exact. Et donc,
il y a... L'autre midi à la table d'à côté.
Ben, c'est ça. Donc, moi, ce que je conseille, en fait, c'est un autre midi à la table d'à côté par rapport à la question du travail du sexe. C'est tout ce que je demande.
Wow. Allô, Radio-Canada, please.
Mais c'est ça. Donc, dans le fond, la santé publique a réalisé que, comme le travail du sexe ne pouvait pas être effacé et disparaître, on l'a vu. C'est ce qu'on dit des fois. Et même en Suède, par exemple, où c'est le même système qu'au Canada qui date des années 90, le travail du sexe existe encore. Et il y a encore des gens qui sont victimes d'exploitation. Donc, constatant cela, on s'est dit, il y a peut-être une autre solution. Et c'est là qu'on a invité donc, à la table un groupe qui militait pour les droits des travailleurs du sexe. Et on est arrivé à l'idée que la décriminalisation était la meilleure idée. Et depuis, les crimes ont diminué. Il y a plusieurs études qui ont été faites. Et les travailleurs du sexe disent qu'elles se sentent plus en sécurité d'aller voir la police, qu'elles se sentent plus en sécurité de dénoncer des agressions lorsqu'elles en vivent dans leur milieu de travail. Parce que ici, mon but, je tiens à le préciser là, dans cette chronique, c'est pas de dire que le travail du sexe est un métier qui est toujours rose, que toutes les personnes qui en font le font parce que c'est leur premier choix. L'idée, c'est simplement de dire que en voulant prendre des décisions pour d'autres gens, on les met souvent dans des situations plus précaires. Je pense que ce qu'il faut retenir du cas de la Nouvelle-Zélande dans cette chronique, c'est qu'il est absolument essentiel de créer des politiques publiques en écoutant les demandes des personnes qui vont être concernées par ces nouvelles mesures, parce qu'on a beau être le mieux intentionné du monde, on a tous et toutes nos biais personnels, nos expériences individuelles qui viennent modeler notre manière de penser et de prendre des décisions pour les autres. Et ces biais, ils peuvent être néfastes, surtout quand ils invisibilisent la capacité agentive des individus. Je vous invite donc, si vous avez le pouvoir de prendre des décisions pour d'autres, je m'adresse à tous les dirigeants qui nous écoutent apparemment. Là.
Est-ce que tu penses que Stephen Harper nous écoute?
Mais ce qui est intéressant, c'est que Justin Trudeau, au moment où la loi est passée, et le Parti libéral avait voté contre. En fait, tous les partis qui étaient, pas au pouvoir, mais au Parlement, mon Dieu, il y a un mot pour ça, l'opposition, avait voté contre la loi et avait dit qu'ils allaient la changer. Ils ne l'ont pas fait, finalement. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, je m'adresse encore aux décideurs avant de prendre une décision pour d'autres. Je vous invite à toujours le faire de manière collaborative et ne pas rester campé dans vos idées préconçues, parce que c'est en se parlant et en s'écoutant qu'on va réussir à adapter notre monde pour qu'il soit plus sécuritaire pour tous.
Wow.
Donc voilà mon petit cri du cœur.
Il y avait une question qui a mis en Nouvelle-Zélande suite à la loi, et je me demandais, est-ce qu'il y a une baisse sur les mineurs, mettons?
En fait, c'est intéressant parce que ça a permis effectivement aux gens de faire plus de prévention auprès des mineurs, puis aux gens de se concentrer plus sur l'exploitation réelle vécue. Ouais. Donc, oui, on voit une certaine diminution auprès des mineurs. Mm-hmm. Puis le travail du sexe, par contre, là, je le précise, au niveau des personnes majeures, n'a pas diminué, mais n'a pas augmenté non plus. Donc, voilà.
OK, parfait. Ben, merci, Camille. On se voit la semaine prochaine. Notre invité de ce soir nous emmène dans un univers dansant, chaud et exotique, il faut le dire. Là, Philippe nous présente la chanson Fiomara Villa du groupe Bon Entendeur.
Ton palais, c'est trois bouts de tôle, de planches de bois. Un paradis de bidonville qui s'appelle Favela. Sur les bidons, on peut aussi faire de la musique et refaire conspiration.
écouter Sainte-Catherine Saint-Loup au 101.5. D'habitude, on commence avec lui, mais cette fois-ci, il termine la première heure avec nous. Victor,
ben oui,
salut.
Pourquoi pas? Ça va bien?
Oui, toi?
Oui, très bien. Donc, aujourd'hui, je vous parle de la représentation des Premières Nations dans le cinéma québécois. Sujet faste, sujet difficile à faire en une seule partie. Donc là, c'est la partie 1.
Peut-être aussi, c'est la partie 2, partie 1. Ouais, c'est ça, là.
C'est un grand dossier sur lequel je m'élance. Oui, exact. Ben, commençons par quelques avertissements au niveau du vocabulaire utilisé, là. Donc, comme vous vous en doutez, je vais parler de... Ben, j'ai fait ce cadre-là dans un projet, dans un programme d'histoire. Donc, j'utilise des sources historiques pour me baser. Puis comme on regarde beaucoup vers le passé, mais souvent la nomenclature qui est utilisée pour décrire les Premières Nations n'est pas la bonne nomenclature. Donc, on utilise des termes comme indien ou sauvage pour décrire les Premières Nations, mais on comprendra ici qu'on n'approuve en rien ces termes-là qui sont utilisés, puis qu'on comprend justement l'utilisation péjorative de ces termes-là. Donc, je vais me lancer tout de suite dans la chronique. Est-ce que vous saviez que dans le premier film de l'histoire du cinéma québécois, on représente des Premières Nations?
Jamais pensé.
Toi qui es en cinéma, tu sais pas ça?
Non, je rentre à Concordia en septembre.
Ah, c'est vrai?
C'est accepté.
Oui, c'est vrai, en plus. Ben oui, parce que le premier film tourné en cinéma, en territoire québécois, c'est un film des opérateurs Lumière qui a été tourné en 1900. C'est les opérateurs Lumière qui filment une danse indienne. Ça dure environ 55 secondes. C'est des Mohawks de la communauté de Kanawake à Montréal qui font une danse d'environ 55 secondes. Le questionnement sur à quel point est-ce que ça c'est un documentaire ou est-ce que c'est une fiction peut être suscité parce que sûrement qu'ils leur ont dit est-ce que vous pouvez faire une sorte de danse, puis là ils ont fait une danse qui normalement est faite dans un contexte, on peut l'imaginer plus rituel, puis là ils l'ont juste faite devant des blancs avec une caméra, donc c'est un peu bizarre comme contexte. Donc ça c'est juste un fun fact comme ça pour vous.
C'est mais un peu folklorique.
Oui, folklorique. Puis ça décrit, dans le fond, l'attitude que les cinéastes vont avoir par rapport, par rapport aux Autochtones dans leurs films. Donc, juste pour vous donner une idée, là, je vais partir sur trois axes principaux, c'est-à-dire, premièrement la représentation par les autres, ensuite la représentation par soi-même, donc l'auto-représentation, quand les Premières Nations vont avoir accès aux outils puis au cinéma pour se représenter eux-mêmes puis parler de leurs enjeux, puis finalement la prospective et la perspective, donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut percevoir le médium pour le futur, quelle idée est-ce que ça peut nous donner. Fait que là, je vais commencer tout de suite par justement comment les cinéastes québécois dans l'histoire ont décrit les Premières Nations. Bien, souvent, il y a eu deux figures principales, deux archétypes. Le premier, c'est la figure du bon Indien. Ce bon Indien-là, c'est un archétype, bien évidemment, puis c'est quelqu'un qui est curieux, qui aide le personnage blanc dans sa quête, puis qui va un peu l'outiller sur des sujets qu'on pourrait dire exotiques, comme par exemple, lui, il est proche de la nature, le bon Indien, donc il est en harmonie avec la nature. Il sait comment naviguer, par exemple. Il peut aider le blanc, qui n'a pas nécessairement ces connaissances-là, à justement s'apprivoiser à un environnement qui est sauvage. Puis ce récit-là, cet archétype-là, il sert un récit national très présent. Parce que c'est un récit national qu'on nous sert comme quoi les colonisateurs, à l'origine du territoire qu'on appelle le Québec, étaient amis avec les membres des Premières Nations. Puis étaient, dans le fond, vivaient en harmonie avec eux. Puis là, on oublie toutes les choses que les colonisateurs, les Français et les Anglais ont fait au peuple des Premières Nations, c'est-à-dire un nettoyage ethnique et toutes sortes de génocides, puis surtout une situation où on les a exploités. Ensuite, la deuxième figure principale, c'est celle du mauvais sauvage. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est une figure qui est présente dans un des premiers films qui met en scène des Autochtones au Québec, un des premiers films de fiction qui s'appelle « Le festin des morts » de Fernand Dansereau. Ce film-là est réalisé en 1965, puis attention, écoutez le casting des acteurs. C'est Jacques Godin, Monique Mercure, Janine Souteau et Marcel Sabourin qui jouent des Hurons.
Ben non.
Oh, c'est malade. Donc, dans ce film-là, on
se casse, évidemment.
Ben oui, c'est assez. Ben, en même temps, j'ai l'impression que c'est quand on sait que ça a été réalisé en 1965, ouais, ça nous étonne pas beaucoup.
Ben oui, c'est ça. Ouais.
Puis, dans le fond, dans ce film-là, on suit une équipe de missionnaires français qui vont essayer de faire ce qu'on appelle, là, je mets des guillemets, un voyage en Huronie. Donc, ils entreprennent une mission d'évangélisation en territoire Huron, puis ils se font recevoir par une tribu Huron, et puis là, ils vont vivre un calvaire avec ces Hurons-là qui vont les torturer, les menacer, puis les tuer, puis ça va être un enfer, dans le fond. Donc, vous l'aurez compris, dans ce genre de film-là, l'Autochtone est représenté comme une opposition directe à l'homme blanc, au colonisateur. Mm-hmm. Parce que dans ce genre de récit-là, ben, on représente qu'il n'est pas capable de s'adapter, que la cohabitation n'est pas possible. Et finalement, ce n'est pas souvent par mauvaise volonté, c'est simplement parce que dans ces films-là, le personnage archétype du mauvais sauvage n'est pas assez intelligent pour comprendre tous les bienfaits que peut lui apporter la colonisation. Puis ça se représente justement par des personnages de missionnaires bien intentionnés qui ne veulent qu'apporter de la santé, les civiliser, une bonne religion, puis des outils pour se développer. Donc, ensuite de ça, il va y avoir vraiment beaucoup de films qui vont se centrer sur ces deux figures-là. Là, je peux en nommer quelques-uns. Là, il y a Red de Gilles Carle en 1970, un film qui s'appelle Les Maudits Sauvages de Jean-Pierre Lefebvre, des films anglophones comme Alien Thunder, Visage pâle, L'Automne sauvage, Windigo de Robert Morin, puis Le silence des fusils d'Arthur Lamotte. Pour voir un premier long-métrage réalisé par un membre des Premières Nations, un long-métrage de fiction, il faut attendre 2011. Donc, c'est quand même assez tard là, dans l'histoire du cinéma québécois. C'est Mesnac, j'espère que je le prononce bien, du réalisateur Yves Sioui-Durand. Quand on représente les Autochtones dans la première partie, dans cette première période du cinéma québécois, ben, on prend beaucoup de liberté avec l'histoire. On n'est pas intéressé par la réalité des Autochtones, mais on est plutôt intéressé par qu'est-ce que les Autochtones peuvent représenter comme archétype de personnage. Puis comme je vous l'ai dit, on sert une idée de roman national, soit que ces gens-là cohabitaient avec les colonisateurs, ou bien que la cohabitation était impossible. Donc,
Rien entre les deux,
il y a très, très peu de nuances. Certains réalisateurs, après l'émergence du documentaire, de ce qu'on a appelé le cinéma vérité, puis le cinéma direct, là, quand ils ont réalisé que les Québécois étaient un peuple qui était opprimé, qui subissait une oppression par leurs conditions, ben, ils vont tendance à avoir un certain sentiment d'empathie envers les Premières Nations, puis ce sentiment-là va amener des réalisateurs québécois à s'intéresser de manière plus véridique aux Premières Nations. Puis ça, on peut le voir dans un film qui s'appelle... attendez, je vais retrouver une petite seconde. Excusez. Un film de Bernard Raymond qui s'appelle « Ce qu'il faut pour vivre », où on suit un personnage inou qui s'appelle Tivi, qui est malheureusement expatrié de son village, puis qui se fait envoyer dans un hôpital psychiatrique où il est séparé de sa famille. Là, vous comprendrez que le récit n'est pas super heureux, mais c'est au moins une tentative pour des réalisateurs québécois francophones blancs de s'intéresser aux réalités et aux problématiques que pouvaient vivre historiquement les Premières Nations. Puis cette vision-là, justement, de l'Autochtone vit des problèmes et a presque pas de perspective d'avenir, elle va durer quand même longtemps, mais quand va arriver l'auto-représentation, ben, les membres des Premières Nations et les cinéastes des Premières Nations vont avoir tendance à dire « Oui, on vit des problématiques, mais ce n'est pas que ça, la réalité d'être une Première Nation. Il existe des perspectives de développement, puis il existe des moments où on est heureux, puis on peut les raconter au travers de notre vécu. » Donc, c'est là qu'on va arriver à des perspectives qui sont beaucoup plus intéressantes.
Ça, c'est depuis 2011, là, en fait, ça, qu'on oui, voit ce type de cinéma-là.
Oui, vraiment. Okay. Puis, tu sais.
Juste ces discussions-là.
Oui, tout à fait. Puis, je veux juste vous faire, juste pour la petite histoire, là, quand j'ai réalisé ce travail-là, moi, j'avais. Il fallait que je me base sur des sources écrites. Là. Donc, vous comprendrez que le champ d'étude sur l'histoire du cinéma autochtone est quand même, au Québec, est quand même assez très réduit. Donc, moi, j'avais très peu de sources pour faire mon travail. Mm-hmm. Donc, c'est ça, je terminerai par dire que, justement, le réalisme pessimiste là, que j'ai pu décrire avec le cinéma de Bernard Raymond, avec ce qu'il faut pour vivre, là, ben, il va avoir tendance à changer grâce à l'auto-représentation. Puis ça, on le voit avec un film comme, justement, Ménac, où c'est le personnage principal, c'est un récit, c'est une auto-fiction, dans le fond, sur un artiste autochtone qui est allé vivre dans une grande ville et qui décide de retourner dans son village natal où il se sent à la fois un peu distant par rapport à son village natal, mais aussi il sent un profond lien d'appartenance qu'il essaye de recréer, puis de retrouver son côté, retrouver une connexion avec ses racines, des membres des Premières Nations.
Camille, tu voulais dire quelque
chose? Oui, en fait, j'étais avec toi au Festival Regard la semaine dernière, et le Festival Regard est en ligne donc jusqu'au 7 avril. Et il y a une sélection Regards autochtones, donc de courts-métrages produits et réalisés par des personnes autochtones. On pourra le mettre sur l'Instagram de l'émission si ça vous intéresse. Absolument. Pour justement voir de l'auto-représentation.
Là,
ça
peut être super intéressant. Payer, mais c'est très minime.
C'est 45 $ pour les plus de 200 films du festival.
C'est tous les films, dans le fond.
Donc, ben oui, c'est ça, ça vaut la peine. Puis aussi beaucoup de films sur l'ONF qui sont disponibles si jamais vous vous intéressez au cinéma. Je pense par exemple au cinéma de Alanis Obomsawin qui a fait beaucoup de documentaires. Ce ne sont pas nécessairement des fictions. Il y a Kanasetake, 270 ans de résistance. Puis il y a aussi un film qui est plus récent que vous connaissez peut-être, qui est Beans, qui a été sélectionné dans le fond pour le prix collégial du cinéma québécois en 2020. Donc, c'est ça.
Par qui, ce film-là?
Mon Dieu, je ne me rappelle plus. Oh, mon Dieu. Ah,
on le trouvera, sinon
on le mettra sur la page de l'émission. Sociaux.
Ah, mais merci, Victor. Super intéressant.
Des belles suggestions, toujours.
Oui, ouais. On fait une courte pause, mais restez pas loin, parce qu'après, on parle avec l'animateur, concepteur et recherchiste Philippe Lacroix sur la crise des médias.
Salut, mon nom est Camille et je suis une conseillère dynamique et polyvalente.
Si Camille n'a pas mentionné qu'elle est dyslexique, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travaillez pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
Hey! Salut, ici Philippe Papineau et je suis à la barre de l'émission Francophile tous les mercredis de 10h à midi. Francophile, c'est 2 heures de bonne musique en français, un pied dans le son du moment et l'autre un peu plus nostalgique. À tout de suite.
Chez Éducalois,
on sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
Alors arrête de tourner les coins ronds.
Et renseigne-toi avec Angle droit.
Chaque mardi de 11h à 11h30.
Sur CIBL au 101.5.
C'est un rendez-vous parce que savoir...
c'est pouvoir.
CIBL 101.5, Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
Notre invité de la semaine est avec nous en studio, Philippe Lacroix. Jingle!
De Québec, Philippe Lacroix est un jeune millénial qui entame dans les années 2010 son baccalauréat en télévision à l'UQAM. À partir de là, c'est son entrée dans le milieu et les contrats s'enchaînent. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose à première vue, mais vous le connaissez. Il a animé Flip TFO
OD+ en direct, a collaboré à Sucré Salé et sur les ondes de Weekend 95. Et ce n'est pas tout. Il a interviewé Sofiane Alain, Jay Dutombe, Sugar Sammy et beaucoup d'autres. Bref, il est un peu partout et pas que devant la caméra, aussi derrière celle-ci.
Parce que Philippe est occasionnellement auteur pour le web, notamment avec une série web appelée Mon Bro, recherchiste pour la télé à des émissions comme C'est juste la TV ou Bonsoir, bonsoir, et parfois même comédien. Oui, oui, il a imité Justin Trudeau ou encore Pierre Lapointe. Ce jeune millénial regorge donc de talent et a des choses à dire et surtout, il aime beaucoup son métier, tellement qu'il vient nous en parler ce soir.
Bienvenue à Sainte-Catherine-Saint-Loup,
My
Philippe.
God, merci pour l'invitation.
Oui. Ça nous fait plaisir, on est vraiment contents de t'avoir.
Oui, vraiment. Philippe, avant de plonger dans nos sujets, on demande toujours cette question-là à nos invités. Oublie le côté géographique, d'où viens-tu?
Je viens d'un monde très rationnel, je pense. Okay. Je sais pas si ça répond à ouais, c'est ça, hein, tu voulais pas quelque chose de géographique. Je pense que je viens d'un monde très rationnel.
Québec, ouais.
Oui, exact. Non, c'est ça, je viens d'un monde très rationnel, très cartésien. Ma famille, c'est ça, ils sont tous du côté, comment dire, administration, finance, okay, etc. Fait qu'ils sont vraiment du côté, mettons, business ou entrepreneurial, entreprise. Fait que moi, je suis comme un peu le mouton noir de la famille. Je suis comme le gars qui, premièrement, a décidé de quitter Québec, qui a décidé d'aller dans le domaine des médias. Clairement, j'avais cet appel-là très, très jeune. J'aimais ça chanter. Mes parents, ils disaient, on comprend pas d'où tu tiens ce talent-là. Fait que je leur disais qu'ils m'avaient tout donné, puis il leur restait plus rien.
Ah, j'aime ça.
Wow! Puis, dans les médias communication, qu'est-ce que tes parents faisaient?
Ah, mais c'est ça, ils sont pas là-dedans, là. Ils sont pas okay. du
sont
tout dans les médias.
Ils
sont vraiment okay. en mode, tu sais, business, comptable, ressources humaines, oui, etc. Fait qu'ils sont vraiment à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça qu'ils comprennent pas du tout pourquoi je suis allé dans
cette... Tes frères et sœurs qui sont dans...
Ouais, ma sœur, okay, même chose, est allée côté ressources humaines.
OK, okay. Ouais, complètement différent,
j'ai
là.
Pas rapport.
Sur ta page LinkedIn, Philippe, et là, je te sais, tu dis avoir...
Oh mon Dieu, t'es allé fouiller, là. Je l'ai pas mis à jour depuis une éternité. J'ai hâte de voir.
Vrai? OK, bon, ben on va voir si c'est à jour. Ah, tu me dis si c'est à jour ou pas. Tu dis que tu as eu du mal à faire entrer les choses dans des petites cases fermées, ouais, y compris toi-même. Ouais. Résultat, et là, je te cite, je fais fi des frontières et des étiquettes. Bon, premièrement, est-ce que c'est à jour?
Oui. Ça, je pense que oui. Ouais, oui, étrangement. Je pense que c'est quelque chose que j'ai écrit il y a sûrement une dizaine d'années facile, puis je pense que c'est encore le cas. En ce sens que, puis je pense aussi que c'est typique peut-être de ma génération, mais on est coincé entre, bon, un peu les anciens, mais on va dire les médias traditionnels, avec Internet, ouais, on est né là-dedans, mais en même temps, on a baigné dans tout ça. Donc, j'ai un peu l'impression qu'au niveau des frontières, j'ai de la misère à les voir, premièrement, au niveau des plateformes, ne serait-ce que dans mon métier. Puis après ça, au niveau de moi-même, j'ai un peu de la misère à me situer aussi, parce qu'on est dans un monde où on est comme... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais. On a comme besoin de mettre des étiquettes. Puis je pense qu'à la limite, c'est la même chose au niveau de la personnalité, au niveau de l'orientation, au niveau de la profession. On a comme besoin de mettre des étiquettes sur les gens pour que ce soit plus facile à comprendre qui ils sont. Moi, d'un côté professionnel, en termes de ce que j'aime faire, je trouve ça très difficile de moi-même me mettre des étiquettes, à savoir, je ne suis que ça. Mm-hmm. Je suis que recherchiste, que animateur, que auteur. J'ai bien de la misère avec ça.
Autant on évolue, mais autant on a encore besoin de se mettre des étiquettes, que ce soit l'orientation sexuelle, professionnelle, tout, sur tous les angles. C'est
fascinant.
Je trouve ça fascinant. Oui,
c'est fascinant. Puis je comprends d'où ça vient psychologiquement. C'est comme une espèce de besoin pour comprendre à qui on a affaire. Mais je trouve que c'est très limitant. Mm-hmm. Puis je trouverais ça le fun si on était capable, peut-être, en tant que société, d'élargir un petit peu.
Ouais. Et rapidement, est-ce que tu penses que, toi qui disais venir d'un monde rationnel, ouais, d'aller dans ces hors frontières, hors des étiquettes, c'est un peu quitter, s'échapper de ce monde rationnel?
Ben, c'est encore drôle. Moi, à l'université, j'étais dans un bac très créatif. J'étais en télévision à l'UQAM. On était 30. Puis je me souviens qu'il y en avait une dans le bac qui m'appelait le rationnel. Non, elle m'appelait le cartésien. Fait que ça donne une idée de à quel point j'étais peut-être un peu trop cartésien pour cette affaire-là. Mais ça donne aussi des fois un équilibre le fun entre être stratégique et créatif, alors que des fois, il y en a qui sont juste créatifs puis c'est difficile de les ramener. Ouais. Fait que je pense qu'au final, je réussis à naviguer ça d'une manière... plutôt le fun.
OK.
Ouais.
Les recherchistes, c'est un corps de métier dans l'ombre, mais qui commence à avoir beaucoup de reconnaissance. Mm-hmm. Un métier qui n'a pas de syndicat aussi.
Mm-hmm. Ouais.
Comment, nous, on se demandait comment les recherchistes, ceux qui décident du contenu quand même, qui le créent, ça vient d'eux. Bon, ils sont souvent sous l'emprise du diffuseur, des producteurs, mais...
L'emprise, hein?
Il y a beaucoup de chefs. On dit souvent qu'en télé, il y a beaucoup de chefs.
Oui, mais comment est-ce qu'ils peuvent être un moteur pour amener les jeunes à écouter notre émission, à être un moteur de changement, en fait?
Ah ben c'est intéressant ça, parce que j'ai l'impression que souvent, recherchiste, c'est un peu, peut-être pas la porte d'entrée, il y en a qui font ça vraiment de carrière, puis en général, je trouve que c'est les recherchistes les plus impressionnants, les plus solides, ceux qui ont des, ils ont tellement de trucs dans leur petite poche arrière, on dirait qu'ils ont, ils ont mille et une ressources. Mais il y en a aussi beaucoup qui vont commencer recherchiste, puis ils vont devenir chef recherchiste, producteur au contenu, producteur. Okay. Fait que des fois, c'est une porte d'entrée. Résultat, je pense qu'il y a une bonne partie des recherchistes qui sont en ce moment dans le domaine de la radio, de la télévision, qui sont plutôt jeunes. Oui. Fait que c'est un peu notre génération. T'sais, c'est
beaucoup
un peu
de trentenaires là, dans les hauts postes.
Exact. Ouais. Fait que c'est un peu nous qui pouvons proposer des idées, proposer un genre de... Non, mais attends, mais lui, je l'ai vu sur TikTok, puis il est vraiment intéressant, il est vraiment pertinent, il est, ça serait bon de l'avoir sur notre table ronde ou de l'inviter pour jaser de tel sujet. Puis on risque de se buter à des phrases du type « Ouais, mais on le connaît pas. Mm. Ouais, mais on sait pas c'est qui. Ouais, mais tu sais, telle personne à la maison qui nous
toi,
regarde,
elle sait pas c'est qui. » Mais...
Exactement. Donc, je pense qu'on est... Je pense qu'on peut être une très belle porte d'entrée pour amener du renouveau puis faire découvrir des choses à un public qui suit peut-être plus les médias traditionnels. Je me croise les doigts pour qu'on ait peut-être de plus en plus d'écoute au sein des équipes de production et des diffuseurs dans les prochaines années. Ce serait mon souhait.
Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas en ce moment? Tu parles... Est-ce qu'il y a un manque d'écoute en ce moment?
Je pense qu'il y a une fébrilité où il y a des craintes. Tout le monde veut protéger son derrière d'une certaine façon. Mm-hmm. On veut tous continuer à travailler, à rouler. Les diffuseurs veulent exister, les boîtes de production veulent exister. Nous, on veut travailler en tant que recherchiste, producteur, auteur, DA, peu importe. Fait que je pense qu'il y a toujours ces vieux réflexes-là d'aller vers des visages connus. Mm-hmm. C'est rassurant pour tout le monde, pour l'équipe de production, pour le diffuseur et pour le public. C'est un peu comme un argument de vente. C'est sûr qu'on va... On se dit que c'est sûr qu'on va réussir à accrocher un public comme ça. Mais peut-être qu'il manque d'audace, d'audace en ce moment.
Mais justement, on voulait en parler. Il y a quelques semaines avant cette entrevue-là, tu partageais des réflexions sur la crise des médias sur ta page Instagram. On t'écoute.
Il y a un désintérêt, il y a un désengagement de notre culture. Et c'est pas juste la faute de ceux qui ont les mains dedans et qui le font à tous les jours. Il y a quelque chose de politique.
100% raison. Il faut une volonté politique. Pourquoi les diffuseurs d'ici, surtout nos diffuseurs publics, sont pas obligés de rendre des comptes pour prouver qu'ils ont réussi à rejoindre toutes les générations?
Pourquoi est-ce que... Bon, à part le risque financier aux États-Unis... qui est beaucoup moins grand, qu'on est capable d'absorber avec bon, des partenaires financiers plus divers. Pourquoi est-ce qu'ici, les diffuseurs, les producteurs sont plus réticents à sortir du moule des séries avec des, bon, entre autres ce que tu as dit, des nouveaux visages, mais même aussi des histoires?
Pourquoi? C'est une excellente question. Je pense que c'est pas juste au niveau de quelles histoires on raconte, mais aussi au niveau des formats. On est pris avec de la télé. Ben, de la télé, c'est du 22 minutes, c'est-à-dire une demi-heure, ou du 44 minutes, c'est-à-dire une...
Avec
on est
les pauses, sans les pauses.
Oui, on est beaucoup dans ces affaires-là, alors que nous, on est la preuve de ça. T'sais, je vous pointe, mes deux chers animateurs. On est la preuve qu'on consomme pas nécessairement ces formats-là. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. On pogne des petites snippets sur Instagram ici et là. Pourquoi on hésite à briser ce moule-là? C'est une excellente question. Là, dans l'extrait, évidemment, au début de l'extrait, c'était Julie Le Breton.
Exactement.
Je réagissais à une entrevue qu'elle avait accordée à Pénélope, un petit bout d'entrevue qui avait passé super rapidement, mais je trouvais qu'il y avait tellement de matériel là-dedans puis qu'il y avait matière à débat. C'est vraiment une bonne question. Je pense qu'il y a, des questions à se poser du côté des producteurs, au niveau des diffuseurs, puis au niveau du public aussi.
Par exemple?
Ben, à qui on donne notre attention? À qui on donne notre attention? Ce que je remarque souvent, c'est que les gens autour de moi vont suivre à peu près pas de médias traditionnels. Est-ce qu'on a une curiosité? Le nombre de fois que je dis « Ah, ben je travaille sur telle émission de TV », ben les gens sont comme « Ah, ben j'ai pas le câble ». Ben oui, mais moi non plus, j'ai pas le câble. Ça fait des années que j'ai pas le câble. Je m'en vais sur TVA+, je vois les émissions gratuitement sur ici tout.tv. Il y a aussi tout.tv Extra qui coûte quelque chose, même chose comme Crave, comme Vrai, comme Club Illico. Il y a plein d'affaires qui sont payantes,
Netflix,
mais il y a plein d'affaires qui sont
Netflix
gratuites
même
aussi.
Même qui rajoutent des séries québécoises.
Mais oui.
Moi, puis Catherine, on est pogné sur Au secours de Béatrice
on
en
capote,
ce moment.
Mais là, mais c'est ça, tu sais, c'est une
mais
belle.
À l'époque, moi, je le voyais passer à la télé. Puis là, quand je dis à ma mère, oh, j'écoute Au secours de Béatrice sur Netflix, c'est comme, mais voyons, c'est de retour, genre, mais sur Netflix, je suis comme, ben oui.
Puis on redécouvre ça.
Je pense qu'il y avait eu la même chose avec les filles de Caleb. Ça se peut-tu?
Les filles de Caleb.
C'est ça. J'ai pas suivi ça, mais...
Moi, c'est comme ça que j'ai pu écouter ça, là, aussi avec ma mère. Puis elle avait écouté à la télé à l'époque. Donc, tu sais, c'est... Ça fait vivre des beaux moments aussi. Là,
on redécouvre une série extraordinaire.
Ouais. Ben oui. Puis il se faisait plein de belles choses à la télé, comme il se fait encore plein de belles choses aujourd'hui. Fait que je trouve que ça vaut la peine de découvrir ça. Mais pour revenir au point de à qui on donne notre attention sur les réseaux sociaux, des fois, je me dis comme, tabarouette, il y a beaucoup de gens à qui on est abonné qui sont juste là pour être beaux. Du monde en maillot de bain ou en chess. Puis je suis comme, mais pourquoi on donne nos clics? Pourquoi on donne nos abonnements? Pourquoi on donne nos likes et nos commentaires à ces gens-là alors qu'il y a plein d'autres créateurs de contenu où il y a des comptes Instagram de telle émission ou telle qu'on pourrait suivre, puis au moins on aurait un petit peu plus de matière, un petit peu plus de contenu. Il y a des choix qu'on fait, puis il y a quelque chose de politique là-dedans. Mm-hmm. C'est pas juste d'aller voter une fois aux 4 ans qui est politique. Donc, voilà.
Est-ce que, c'est une piste de solution, je m'avance, est-ce que peut-être le problème n'est pas plus grand que nous? C'est-à-dire, on n'est pas dans une crise de la culture, mais culture avec un grand C dans le monde. Mm-hmm. C'est qu'on est un peu dans une ère à l'image où on doit avoir tous l'air beau, on doit se montrer, on montre quelque chose sur Instagram qui n'est pas nous, notre soi est démultiplié.
La montée des réseaux sociaux aussi, le nombre de temps qu'on passe là-dessus comparé à écouter un film, une télévision, tu sais, les vidéos là-dessus remplacent ce temps-là. Moi, c'est ça que je me rends compte avec des gens autour de nous.
Ben oui, puis absolument, c'est vrai que c'est des chronophages, là. On passe énormément de temps sur ces applications-là, sur ces téléphones-là, et j'espère que les géants du web et des technologies vont avoir des comptes à rendre un petit peu plus dans les prochaines années. Oui, effectivement, il y a beaucoup une question de temps, mais après ça, c'est parce qu'il y a des algorithmes qui sont derrière ça. Et c'est sûr que des créateurs de contenu doivent constamment publier, puis les algorithmes nous comprennent, puis nous repoussent du contenu qui correspond. Donc, on est toujours dans cette dynamique-là où c'est très difficile de sortir de ça. Il faut énormément de volonté par nous-mêmes pour sortir de ces machines-là qui ont, veut pas, beaucoup de contrôle sur notre cerveau, là.
Mm-hmm. Philippe, on a fouillé le 8 mars 2014, toi et des camarades.
Oh là, ton visage, il faut le voir.
8 mars 2014.
Vous avez écrit une lettre sur les coupures à Radio-Canada qui se faisait à l'époque. Et ça, c'était il y a 10 ans. Pis...
Une lettre dans l'Actis.
Ouais.
Hein?
Ouais.
Oui. Moi? Puis mon nom, y es-tu?
Oui.
Oh mon Dieu, qui attend là?
Camarade. Je sais que tu t'en souviens pas. Qu'est-ce que... Tu sais, donc là, on se rend compte que... On dirait qu'on est encore dans le même bateau, il y a encore des coupures qui se font. Moi, je me demandais qu'est-ce que tu dirais aux étudiants dans ce domaine-là en ce moment, dont on a un chroniqueur, Thomas Mercier, qui est à ATM en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là qui finissent l'école, tu sais, qui étaient...
C'est embêtant parce que je me reconnais beaucoup encore dans... Tu sais, tu donnes l'exemple de ton collègue là, qui finit ATM. Mm-hmm. J'ai pas l'impression d'être si loin... que ça. Ça a beau faire 10 ans que je suis dans le domaine, j'ai pas l'impression d'être si loin que ça. Qu'est-ce que je dirais? Je pense qu'il faut défoncer des portes. Je pense qu'il faut se battre. Je pense qu'il faut critiquer la machine de l'intérieur. Souvent, c'est pas très bien vu. Souvent, on est comme, ben là... Tu veux travailler avec nous ou tu veux pas travailler avec nous? Ben oui, je veux travailler avec vous parce que je trouve ça important. Tout dépendant bon, dans ton cas ou ton collègue, bon, ça peut être la radio. Dans mon cas, c'est la télé. J'aimerais ça que la télé fonctionne, survive, s'adapte, réussisse à parler à des nouveaux publics. Mais ben, je pense que c'est de critiquer la machine de l'intérieur et c'est pas toujours bien vu, mais je pense qu'il faut le faire. Mm-hmm. Je pense qu'on gagne à avoir des gens à l'intérieur de nos institutions, à l'intérieur de nos machines qui sont pas 100% d'accord puis qui nous amènent un point de vue différent. On a tendance à les repousser, mais je pense que ça vaut la peine. C'est des voix qui sont pertinentes parce que ça peut aider à sauver certaines machines.
Ouais. J'ai peur d'être sensationnaliste, Philippe, mais est-ce qu'il y a une... Oh mon Dieu! Et est-ce qu'il y a une omerta en télé ou dans les médias?
Une omerta?
Oui, parce qu'on a reçu Vanessa Destinée aussi qui critique... que des critiques légitimes à faire, puis bon, c'est pas... puis elle le dit souvent aussi qu'elle pourrait se faire barrer si elle parlait trop. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a une omerta?
Une omerta, bonne question. Ben, tu sais, on dit souvent qu'en télé, c'est très... comment dire? J'aime utiliser l'image que tout le monde couche avec tout le monde. Dans le sens que... puis, tu sais, je travaille sur ces jeux de la TV. Je fais une petite parenthèse. Je travaille sur ces jeux de la TV. Sur ces jeux de la TV, il y a, entre autres, par exemple, Alex Perron, Brian Odette, Nathalie Petrovski. Oui. Avez-vous vu le nombre de productions où Alex Perron est?
Il est chroniqueur, collaborateur, invité à peu près partout. Ouais. Oui. Nathalie Petrovski est aussi un peu partout. Brian Odette est dans des séries. Il est un peu partout. Résultat, il faut être conscient de cette machine-là. Est-ce qu'il y a une omerta ou c'est vraiment une affaire que tout le monde a des liens avec tout le monde? Ouais. On a travaillé avec tel réalisateur, on a travaillé avec tel diffuseur. Donc, il y a cette sensibilité-là au niveau du fait que on veut... Ben, c'est un petit milieu, puis on veut le bien pour tout ce monde-là parce qu'on a travaillé avec eux, puis on aime ces gens-là, on sait qu'ils sont capables de faire du bon matériel. C'est pas vrai que tout ce qu'on fait, c'est tout le temps bon, mais il y a ce côté-là où des fois, peut-être que la critique est tue, dans le sens qu'on se tait pour protéger peut-être certaines relations, certaines personnes. Ouais,
je reviens sensibilité. Je reviens sur ce qu'on disait tantôt par rapport aux crises, puis tu disais que tu ne sentais pas que c'était aussi longtemps que ça, mais est-ce que le fait que les crises passent et reviennent, c'est pas encourageant?
Les crises passent et reviennent. Je peux pas témoigner des crises qui ont eu lieu il y a 15 ans, 20 ans. Je pense que j'étais pas assez éveillé pour parler de ça. Là, je pense qu'on fait face à quelque chose de particulier, très, très particulier.
Pire que, mettons, en 2014, même si tu t'en souviens pas avec la lettre, là.
C'est ça. Surtout que l'actrice, tu sais, je fais quand même pas partie de l'actrice. Fait que sûrement, tu sais, 2014, j'étais au bac, là. Fait que logiquement, c'était une affaire de bac télé, puis on se disait comment...
C'était vraiment les 30 que vous avez signés avec votre professeur.
Et là, là, je me souviens pas c'était quoi le sujet.
On va te montrer les archives.
Je pense que ça vaut la peine. J'aimerais ça découvrir ça après. Mais tout ça pour dire qu'il y a... Je trouve qu'il y a vraiment une cassure en ce moment au niveau des publics. Il y a vraiment une giga cassure entre mes parents et moi. Puis là, je ne sais pas exactement elle est où la cassure. Je pense que c'est pas coupé au couteau, mais il y a vraiment quelque chose là-dedans où il faut s'y intéresser puis il faut s'arranger pour... parler à toutes les générations parce que sinon...
On se sépare, là.
Elle est où la cohésion sociale? Elle est où la cohésion culturelle? Elle est où l'intérêt entre les générations? Cette curiosité-là de s'intéresser. T'sais, on parlait des filles de Caleb tantôt. Il y a plein de belles choses qui ont été faites dans les années 90, 80. Il faut cette curiosité-là. Mm-hmm. Là, je pense qu'il y a des ponts qui ont été abandonnés et qui doivent vraiment être reconstruits.
Alors, parlons-en. C'est quoi les ponts qu'il faut reconstruire? Parlons des solutions, selon toi, à cette crise-là, à ces crises-là. On peut y aller, là. Au téléphone, on a déjà un petit peu abordé. T'sais, on a déjà, par exemple... Bon, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de Denis Dubois qui veut faire un Netflix québécois où on met tous les contenus? Est-ce que c'est une fausse bonne idée, comme certains ont dit?
Une plateforme qui regroupe tout, entre autres.
Ouais, c'est ça. Au lieu d'avoir un Crave à gauche, un Tout.tv à droite... exact. Ouais. Bon, je suis d'avis que ce serait une excellente idée. Comment est-ce que c'est réalisable? Je le sais bien pas. Qui va sacrifier de l'argent en ce moment, qui sont capables de faire en ce moment, pour faire un pas dans cette direction-là? Je le sais bien pas. Je pense que tout le monde veut protéger sa chasse gardée. Le problème, c'est qu'il faut voir ça beaucoup plus gros. Je pense qu'en ce moment, on se dit beaucoup qu'on est les uns contre les autres, les diffuseurs. Dans les faits, on est contre une giga-tendance mondiale, c'est-à-dire Internet. On n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, je nous souhaite de nous rallier, de nous coller ensemble pour faire comme... Oui, ça serait une super belle offensive de se dire on va mettre tous nos contenus ici sur la même plateforme. Parce que c'est pas vrai que le commun des mortels, le consommateur à maison, a de l'argent pour Tout.tv Extra, Club Illico, Vrai, Crave, l'inflation, etc. On n'a pas ça. Puis c'est sûr qu'à côté de ça, quand tu as Stranger Things qui sort, ben tu vas avoir envie d'avoir Crave. Quand tu vas avoir envie, pardon, d'avoir Netflix, tu vas avoir envie d'avoir, je sais pas si Game of Thrones sort encore un autre dérivé, je sais pas trop quoi. On va avoir envie d'avoir Crave.
Oui. Succession Again, ouais.
C'est sûr que c'est des grosses productions qui sont attirantes. Donc, je pense qu'il faut se rallier parce que dans les faits, au moment où on se parle, je ne suis pas certain que chacune de ces plateformes-là est capable de fournir suffisamment de contenu en quantité et en envergure pour combattre un
Netflix.
Financièrement
aussi, c'est peut-être pas...
On n'a pas ces budgets-là.
On est capable. Un petit milieu, tu sais, pourquoi pas?
Oui, mais on n'a pas besoin d'un gros budget. Je regardais, par exemple, Severance sur Apple TV.
Ah,
ça, on s'entend, là, c'est une série qui se passe dans des murs blancs. C'est tout. La série se passe entre des murs blancs. On serait vraiment capable de créer une série comme ça. C'est pas vrai que ça coûte cher. Il faut une bonne idée, il faut une idée audacieuse, il faut des bons textes, il faut des bons comédiens. That's it. Mm-hmm. C'est tout.
Oh, ouais.
On est capable. Puis on fonctionne beaucoup par bouche à oreille, en plus, notre génération.
Ouais, en plus.
On est très peu... on n'en voit pas de la publicité à la télé parce qu'on ne regarde pas la télé. Donc, évidemment, ça va beaucoup être une affaire de « Hey, j'ai vu une story, deux stories, mm-hmm. trois stories de telle personne qui me disent que, je ne sais pas, tu sais, il y a In Memoriam qui sort aujourd'hui oui. Sur Crave. En fait, ça va faire 2-3 jours au moment de la diffusion de l'entrevue. donc, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir du bouche à oreille à oui. propos d'une série comme ça qui, sans l'avoir vu encore, semble sortir du lot.
Il y a des super beaux côtés des réseaux sociaux pour ça, là,
oui.
une hyper-communication.
Ouais.
Philippe...
Il faut dire aussi que toi aussi, tu fais une série, on l'a mentionné, tu fais une série sur TikTok,
oui.
sur les réseaux sociaux, mon bro.
Mon bro.
En quelques mots, là, pour vendre ça un peu à nos auditeurs, c'est quoi mon bro, rapidement?
C'est parti d'un désir de création, c'est parti d'un désir de mettre à l'écran cette amitié-là qu'on n'avait pas l'impression de voir sur nos écrans. Ça raconte l'histoire de Greg et Tom qui sont deux amis d'enfance. C'est une bromance qui tire souvent sur l'ambiguïté.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut se demander si c'est juste une bromance, mais ça partait aussi de ce phénomène de société qu'on se disait comme, des fois la bromance ça a le dos large. C'est juste pour casser une vision de la masculinité qui mérite d'être évoluée, qui mérite d'évoluer. Donc, on est là-dedans, on a un hétéro, on a un gay, les deux brisent un peu les stéréotypes mm-hmm. qu'on pourrait se dire par rapport à ce qu'on imagine. Puis là, je mets des gros guillemets,
ouais,
on le voit pas
ouais.
en ce moment, mais je mets
les
des
clichés,
gros guillemets par rapport
ouais.
à les clichés de chaque orientation. Fait qu'on baigne un peu là-dedans, puis ça nous permet aussi de jeter un regard plus large sur la société. On s'amuse de plein de façons. Puis ça nous permet aussi de jeter un regard sur l'amitié, la masculinité, l'orientation, les relations, etc.
Ah, ben allez écouter ça.
Oh, oui, c'est vraiment bon sur TikTok, Instagram. Non, mais c'est vraiment TikTok, hein?
Ouais, ben TikTok et Instagram.
OK.
Oui. Ouais. Puis je pense qu'on se force, on travaille fort pour offrir quelque chose qui a du bon sens. On n'a pas beaucoup de temps, on travaille, mais on fait ça les soirs puis les week-ends, puis on trouve ça important d'offrir quelque chose de qualité.
Philippe, pour la fin de l'entrevue, on t'a réservé un petit quiz du recherchiste.
Ouh là là!
Ah, c'est bon, je ne l'avais pas entendu. Philippe, tu es recherchiste, entre autres, parce
oui.
qu'on a dit que tu n'aimes pas ça les cases. Moi non plus.
Exact.
Puis tu l'as été, tu l'es encore. Et c'est ouais. pourquoi on voulait terminer cette entrevue avec toi. On avait le goût de s'amuser, revenir sur des choses qui concernent le métier, entre autres. Fait que c'est mm-hmm. quelques questions. On a encore du temps, là. Fait que... Ouais, Catherine, vas-y.
Okay. OK. Le plus long dossier de recherche que tu as écrit en termes de pages?
Oh, ça, habituellement, je refuse d'aller voir le chiffre parce que je deviens découragé.
Ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup.
Ah non, mais c'est parce que ça se peut. C'est parce que des fois, en fait, des fois aussi, tu bâtis par-dessus le dossier qui a été fait l'année d'avant parce qu'on a déjà reçu. Fait que là, tu finis par juste rajouter du stock. Okay. Ça fait un genre de 35, 40 pages. Ça fait beaucoup.
Oui.
Mais honnêtement, j'aurais pas de chiffre précis à vous dire, mais ça doit jouer dans ces affaires-là.
Veux-tu okay. deviner combien de pages ton dossier était pour toi?
Ben, je sais pas, vous me disiez que vous faisiez des dossiers de comme une vingtaine de pages.
On est à peu près autour de 35 pour toi.
Avec quoi?
Oui.
35.
Mais c'est qu'on va, ouais, on ouais. ratisse large.
On est rendu à 35 pages, c'est sûr que vous aviez le truc de l'actrice en 2014. Ça savait plus sur moi que j'en sais moi-même.
Mais Lou est un peu...
C'est moi qui ai fait ton dossier, donc moi, je m'investis.
C'est ça.
Philippe, l'invité le plus dernière minute à booker, c'était combien d'heures là, avant le tournage du show?
Je sais pas. Je me souviens qu'à un moment donné, une France Baudouin nous avait démerdé pour une émission. On avait comme eu un débooking, je sais pas trop quoi. Puis France Baudouin, évidemment, c'est une femme plutôt occupée. Puis je me souviens, puis encore là, c'était ma boss. C'était passé par ma boss. C'est même pas moi qui l'avais booké, mais j'avais fait un dossier assez rapidement sur France.
Okay,
pas eu de pré-entrevue, malheureusement, si je me trompe pas. Mais tu sais, c'est une invitée en or.
Oui,
elle est généreuse, puis elle est tellement humaine. Bien, c'est vraiment quelqu'un de chouette.
Tellement. Une pré-entrevue marquante, pour n'importe quelle raison.
Ah là là. L'été passé, j'ai adoré jaser avec Marie Laberge.
Oh,
ouais, oui. Ça a été une foutue belle surprise, Marie Laberge. Sans connaître particulièrement son œuvre ou peu importe, mm-hmm. cette rencontre-là humaine, puis même après ça, quand elle est venue sur le plateau, de pouvoir la briefer avant l'émission, ça a été un réel plaisir. Réel plaisir. Oh. Je lui donnerais un micro pour à peu près tout et n'importe quoi, cette femme-là. Parce qu'elle ne fait pas juste écrire. Écrire sur les humains, c'est être philosophe. Et il y a quelque chose de très philosophe et psychologue. Il y a quelque chose dans cette femme-là qui est particulièrement brillant. Puis elle a du mordant aussi.
Mmh.
J'aime beaucoup son côté mordant. Ouais.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va y aller Rapido. Le rapido, ouais, ouais. La chose qui énerve un recherchiste.
Des debookings, des gens qui respectent pas l'heure de pré-entrevue, puis des espèces de demandes dernière minute que tu penses que c'est full simple, mais que dans le fond, ouais, non, c'est parce qu'il fallait qu'on le sache trois jours avant, on l'a pas l'image ouais. que tu veux, on n'a pas les droits. Ouais, exact.
La chose qui rend heureux un recherchiste.
Quelqu'un qui prend réellement le temps de faire sa pré-entrevue puis qui est réellement content de te jaser.
Mmh,
ouais.
C'est vrai ça.
Ben
ouais.
Oui.
Ouais.
Ouais. Un souhait pour la profession.
Qu'elle soit davantage reconnue, appréciée, qu'elle soit plus souvent nommée en onde aussi.
Mmh, oui, ouais. Très vrai ça.
Nommée, c'est vrai.
Ouais. Ouais.
Recherche talk show de variété ou recherche pour une émission de radio?
Oh mon Dieu! j'ai jamais fait de recherche pour une émission de radio. J'aurais vraiment envie de l'essayer. Ouais, pour la raison suivante, j'ai l'impression que les animateurs radio sont très, très proches oui. de leur équipe de oui. contenu. Mm-hmm. Puis ça, j'aurais envie d'explorer ça, cette espèce de collégialité. Parce que souvent, les animateurs radio, ils ont le temps de faire un seul show. C'est une quotidienne, ils ont un seul show dans leur horaire. Ils sont peut-être plus concentrés sur cette affaire-là. Donc, ouais, je serais bien curieux de voir.
Il y a moins l'aspect caméra, là, plus contenu.
Oui, peut-être
contenu,
aussi. Quoique ouais. maintenant, ben, on a la preuve aussi. Il y a tout le temps des caméras dans des studios de radio. Maintenant.
Merci, Philippe. Mon Dieu, quel beau moment pour
Merci
vrai.
Merci à vous.
On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Phil Lacroix, on va mettre ça sur nos pages. Bien sûr, la série Mombro qu'on va mettre aussi sur nos pages. Mm-hmm. Autre chose à ajouter?
Aimez. Soyez curieux. Soyez curieux. Ouais. Okay. Allez plus large que ce que vous connaissez déjà. Ce serait ça mon invitation.
Merci. Parfait. Philippe.
C'est la fin de notre émission et on tient à remercier nos fabuleux collaborateurs Victor Sansou, Camille Sébastien et Simon Veilleux. Camille et Victor, on se revoit la semaine prochaine.
Oh yes, à la mise en onde, le duo tout aussi iconique de Maurice Bolduc et Clémence Langlois. Et on remercie notre ami Jacob Desjardins, le compositeur de notre chanson thème.
Merci à Laurence Hébert et Marie Vinette qui font un baccalauréat à l'université en même temps de produire tout ce beau contenu pour nos réseaux sociaux. Merci le les filles.
Oui. Oh yes. Et la semaine prochaine dès 19h, c'est soir de fête, on reçoit le musicien émergent que tout le monde s'arrache, puis on l'a eu, Émile Bourgault.
On vous souhaite une belle fin de semaine à tous nos auditeurs, auditrices, Lou et moi, on vous dit à la semaine prochaine
au coin Sainte-Catherine-Saint-Loup dans le Grand Montréal.
Brunette et spandex, tous les hits des années 80.
Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, c'est pour annoncer ton émission.
Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
OK, reste en ligne, cours la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de tes chums.
Eh, boy. Spraynet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5
FM.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire Alain Trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le trad le dimanche de 17h à CIBL.
CIBL 105 Montréal.
Non, non. Non. Non, non. Non. Non, non. Non. Yo mo te marandai. Te jure de nuire, le jour ou la nuit. T'es mon cœur, mo te marandai. Brûle-moi sans inverse.